الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 16 من شهر ربيع الأول عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدرس هو 16 في شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 24 novembre 2018 et nous sommes dans le 16e cours de l'étude du livre Al-Ubudiyya, la servitude de l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Toujours dans le sujet de Al-Ubudiyya, la servitude, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous montre qu'il existe des gens qui sont devenus esclaves, serviteurs, non pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt de leur passion, de la convoitise de ce bas monde, d'une personne tant aimée, et tout ce qui est en accord avec leurs envies et leurs passions. Ces passions pour lesquelles ces gens sont devenus esclaves, adorateurs. Ils ont pour elles, pour ces choses-là, fait des actes qui n'incombent qu'à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il nous parle aussi de la convoitise, lorsque la personne est prise par la convoitise envers ce que autrui peut apporter, peut avoir. En blâmant cela, il a cité quelques vers de poésie où les auteurs ont dit « Al-abdu hurrun ma qani' wal-hurru abdun ma tami'. » Le serviteur est libre tant qu'il est satisfait, tant qu'il se contente de ce qu'Allah lui a donné, subhanahu wa ta'ala. Alors que le libre, c'est-à-dire le libre en apparence, est condamné à l'esclavage tant qu'il est pris par la convoitise. Donc le véritable libre est celui dont le cœur est libéré et attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça même la liberté. Et les deux autres vers, أَطَعْتُ مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدَتْنِي وَلَوْ أَنِّي قَنَعْتُ لَكُنْتُ حُرًّا. J'ai obéi à mes convoitises, elles m'ont rendu esclave. Alors que si je m'étais contenté, j'aurais été libre. Et on a expliqué cela. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, va maintenant rentrer dans le domaine de la recherche de la subsistance, talab al-rizq. Ceci car beaucoup parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala manifestent al-ubudiyya, la servitude envers des personnes, envers des créatures, à cause de la recherche de la subsistance. Il nous dit, rahimahullah ta'ala, قال الخليل عليه السلام فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. Dans le sens rapproché du verset, et recherchez auprès d'Allah la subsistance, adorez-le et soyez envers lui reconnaissant, c'est vers lui que vous retournerez. Qui est-ce qui parle ici? C'est Ibrahim alayhi salam. À qui est-ce qu'il s'adresse? Il s'adresse à son peuple polythéiste, à qui il a dit « إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا. » Vous ne faites qu'adorer en dehors d'Allah des idoles, et vous ne faites que forger un grand mensonge. « إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا. » Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possède aucune subsistance. Elle ne possède aucune subsistance pour vous. فَابْتَرُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ. Recherchez plutôt votre subsistance chez Allah. وَاعْبُدُوهُ. Adorez-le. وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Et soyez-lui reconnaissant. C'est vers lui que vous retournerez. Subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ne recherchez votre subsistance nulle part ailleurs que chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ne la demandez à nul autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Invoquez-le, recherchez-la auprès de lui. Abandonnez-lui votre affaire, placez en lui votre confiance. Soyez convaincus que c'est de lui qu'elle vient, lui seul, subhanahu wa ta'ala. Si Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de t'accorder une fille, il te l'accordera. Un garçon, il te l'accordera. Un garçon et une fille, il te l'accordera. Et s'il décide de te rendre stérile, tu n'auras pas d'enfant. Quand bien même tu te dirigeras vers qui tu veux parmi les créatures d'Allah. Ça, c'est une des grandes calamités qui touchent beaucoup des gens dans cette communauté. Que font-ils ? Dès lors qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants, ils se dirigent vers qui ? Ils se dirigent vers des créatures comme eux. Et ils appliquent justement envers eux al-ubudiyya. Ils appliquent envers eux la servitude. Car ils s'avilient et se rabaissent en leur demandant ce que seul Allah peut donner. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Lillahi mulku samawati wal ard. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Yahabu liman yasha'u inatha. Il fait don de qui à qui il veut. Il fait don de fille à qui il veut. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Il fait don de garçon à qui il veut. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Et s'il veut, il unit à la fois fille et garçon. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima. Et il rend stérile qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit aussi: Hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-sama'i wal-ard? Y a-t-il une autre divinité qu'Allah vous octroyant la subsistance des cieux et de la terre? La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Nulle divinité ne mérite l'adoration autre que lui. Pourquoi êtes-vous éloignés? Plein de versets où Allah Azza wa Jal nous parle du domaine de la demande de subsistance et du fait d'attacher les cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala pour demander la subsistance et pas à autre que lui. C'est ainsi que s'est comporté Ibrahim alayhi salam envers son peuple à qui il s'est adressé pour les diriger vers l'adoration d'Allah, vers la demande à Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: فَالْعَبْدُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ رِزْقٍ وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ. Le serviteur a besoin inévitablement de subsistance. Il lui faut absolument une subsistance. فَإِذَا طَلَبَ رِزْقَهُ مِنَ اللَّهِ صَارَ عَبْدًا لِلَّهِ فَقِيرًا إِلَيْهِ. Et quand il demande sa subsistance à Allah, il en devient l'adorateur, il en devient le serviteur, le pauvre envers lui. وَإِنْ طَلَبَهُ مِنْ مَخْلُوقٍ صَارَ عَبْدًا لِذَلِكَ الْمَخْلُوقِ فَقِيرًا إِلَيْهِ. Alors que s'il recherche sa subsistance et la demande à une créature, il en deviendra aussi l'esclave, il en deviendra le serviteur, le pauvre envers cette créature. Ici, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous explique que lorsque il nous met en garde contre la convoitise, le fait que le cœur penche vers une créature, le fait que le cœur s'attache à une créature, il ne s'agit pas ici de délaisser complètement la demande de délaisser la subsistance par peur de s'accrocher à une créature, non. Mais plutôt de faire les causes louables légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala en matière de recherche de subsistance, tout en rattachant son cœur uniquement et totalement à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on demande, on ne demande qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Subhanahu wa ta'ala. Il ne faut donc pas s'humilier devant la créature. Car lorsque Al-Abd, le serviteur, se rabaisse devant une créature à la recherche de sa subsistance, il va en devenir le serviteur. Dans le domaine de la subsistance, le cœur va s'attacher. À qui est-ce qu'il va s'attacher? Il va s'attacher à celui à qui tu cherches, tu demandes et vers qui tu recherches ta subsistance. Si ce dernier est Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu vas manifester pour lui al-ubudiyya, la servitude. Tu vas en être l'esclave, tu vas espérer en lui, tu vas être sincère envers lui et tu vas développer toutes ces choses-là que l'on appelle ma'ani al-ubudiyya, l'essence de la servitude, des choses qui sont subtiles mais dans le cœur. Tandis que si celui vers qui tu cherches ta subsistance est autre qu'Allah et tu lui diriges ton cœur, eh bien tous ces sens-là vont être appliqués devant cette pauvre créature. Wal'iyadu billah. L'imam ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل. C'est pour cette raison qu'à la base, il est interdit de demander à une créature. À la base, il est interdit de demander à une créature. Que dire alors de tout ce que ces gens-là font lorsqu'ils se font passer pour des pauvres, des nécessiteux, et ils passent leur journée à tendre la main et à demander à autrui. Subhanallah. À la base, demander à la créature est interdit. Pourquoi à la base c'est interdit? Par crainte que se développe dans le cœur l'essence de l'uboudiyya, de la servitude envers celui qui est sollicité. Pour cette raison-là, Allah tabaraka wa ta'ala a interdit à la base de demander, bien qu'il soit permis de demander lors de la nécessité, lors du grand besoin, lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Mais à la base même, on ne demande pas une créature. On ne demande pas une créature d'Allah afin de protéger son cœur de la servitude pour un autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. وإنما أبيحت للضرورة وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد. Cela n'a été autorisé que lors de la nécessité, lors de l'extrême nécessité, la demande, le fait de solliciter une personne a été autorisé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette base qui est l'interdiction a été citée dans énormément de récits dont l'auteur rahimahullah va en citer certains. Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit: al-aslu annahu yahrumu an tas'ala al-makhluq amalan. À la base, il est interdit de demander à une créature de l'argent ou des biens. لأن في المسألة ذلا للمخلوق. Car il y a dans cette demande un avilissement pour celui qui demande. ولكن تباح المسألة عند الحاجة كما يأتي. Mais comme on va le voir, il est permis lors du besoin de demander. أما إذا استغنيت فلا تسأل الناس فلا تسأل الناس فلا تسأل الناس واسأل الله سبحانه وتعالى فأصل السؤال للمخلوق محرم وفيه وعيد شديد. Lorsque la personne n'est pas dans le besoin, elle peut se passer d'autrui, alors elle ne doit pas demander à autrui. Elle ne demande qu'à Allah, car à la base, la demande envers une créature est interdite et il en découle une lourde menace, comme vous allez en voir certains textes, bi'idhnillah. L'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, nous cite certains récits. كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةُ لَحْمٍ. L'imam al-Bukhari nous rapporte ce récit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'un d'entre vous ne cesse de solliciter, de demander, c'est-à-dire à autrui, jusqu'à ce qu'il vienne le jour de la résurrection n'ayant aucun morceau de chair sur son visage. Celui qui passe son temps à demander, il demande les biens, il tend la main. Tellement qu'il demande, il arrive le jour dernier, n'ayant au visage plus aucun morceau de chair. Une humiliation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal l'humilie par cette demande-là. Al-Sheikh al-Fawzan hafidhahullah nous dit, هَذَا إِذَا كَانَ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. Lorsque là, il s'agit de la personne qui demande alors qu'elle n'est pas dans le besoin. وَيَتَّخِذُ الْمَسْأَلَةَ حِرْفَةً. Et elle fait de la demande un métier. C'est exactement ce que l'on est en train de vivre dans cette époque-là, ou dans un très grand nombre de mosquées et même d'autres endroits. Nous voyons des gens qui passent des heures à l'image de la personne qui sort le matin et rentre le soir pour aller vers son lieu de travail. Eh bien, ces gens-là s'arrêtent à des endroits déterminés où ils connaissent l'affluence et le passage d'un grand nombre de personnes pour tendre la main du matin au soir et dire ensuite qu'ils ont des problèmes de santé alors qu'ils sont capables de rester debout toute la journée dans le froid à supporter les intempéries, les difficultés, les contraintes. Cela prouve qu'ils sont capables d'aller chercher la subsistance physiquement, d'aller travailler au lieu de solliciter la créature. فَإِنَّهَا تَكُونُ لَهَا آثَارٌ سَيِّئَةٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْتَضِحُ بِهَا. Par ces traces-là, le jour dernier, au visage, qui ont été cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces gens-là seront dévoilés le jour dernier. Également, l'autre hadith, وَقَوْلِهِ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْأَلَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ. L'imam al-Bukhari nous rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque sollicite autrui alors qu'il a sa suffisance, il a de quoi se passer, il n'a pas besoin de demander. Donc l'on comprend du premier hadith que l'on vient de lire qu'il s'agit de la personne qui n'est pas dans le besoin. C'est pour cela qu'il faut concilier les récits afin de ne pas se perdre dans la compréhension. Quiconque sollicite autrui alors qu'il n'est pas dans le besoin, sa demande viendra le jour dernier et elle sera des griffes sur son visage. Il aura le visage complètement griffé le jour dernier. Également, وقوله لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit, il est interdit de demander, sauf pour trois catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est l'endetté. ذو غرم والغرم هو الدين. C'est celui qui est endetté. Celui qui est endetté et n'arrive pas à régler ses dettes. Pour celui-là, il est permis de demander, car sa nécessité le pousse à demander. Il n'a pas d'autre solution. Si c'est le cas, alors il lui est permis de demander, comme nous l'explique le cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, en nous disant, يعني ثقيل بأن يكون عليه ديون مطالب بها ولا يستطيع سدادها فهذا تحل له المسألة حتى يصيب ما يسدد ديونه التي يعجز عنها لأنه غارم لنفسه. Celui-là, il est endetté en lui-même, il n'a pas de quoi régler ses dettes, alors il lui est permis de demander. وكذلك الغارم لغيره كالغارم لإصلاح ذات البين بأن يتوسط للصلح بين القبائل المتنازعة فيحتمل ذلك مالا. Ce premier point peut aussi englober la personne qui vient réconcilier entre deux parties. Elle vient réconcilier deux parties suite à une dispute. L'une des deux parties a été oppressée par la première. celle-ci, donc l'oppressée, demande un droit. Elle demande réparation envers la partie oppressante. Cette demande-là, la personne qui vient réconcilier ces deux parties, c'est elle qui va prendre acte de ces demandes-là. Elle, il lui est permis de demander pour apporter à l'oppressé ce qu'il réclame afin que le problème soit réglé. J'espère avoir été clair. فهذا يساعد من الزكاة ولا يترك ليتحمل الغرامة وحده لأن ذلك يحجف بماله ويسد باب الإصلاح. Deuxièmement, أو دمين موجع. La deuxième catégorie, c'est la personne qui a le prix du sang à payer. Le prix du sang en islam, lorsque il y a eu un assassinat, dans certains cas, le but n'est pas de traiter la question dans son point de vue de jurisprudence, cela se traite dans les livres prévus à cet effet, mais dans certains cas, la personne devra alors payer le prix du sang. Lorsqu'il y a eu un mort, elle devra payer le prix du sang. La personne qui doit payer le prix du sang à cause de la personne dont elle a causé la mort et qui n'a pas de quoi payer ce prix du sang, elle peut demander. Et la troisième personne, أو فقر مدقيع, c'est quelqu'un qui est extrêmement pauvre. Ceux-là ont droit de demander. Ceux-là ont le droit de demander. S'il est extrêmement pauvre, s'il est endetté, il n'arrive pas à s'en sortir, s'il doit payer une dette, le prix du sang, s'il doit réconcilier, il faut absolument une somme, il peut demander. Mais à part cela, il ne faut pas demander. وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. Également le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que l'un d'entre vous, quand l'un d'entre vous prend son câble ou sa corde pour aller ramasser du charbon, cela est meilleur pour lui que de demander aux gens qu'il lui donne ou qu'il ne lui donne pas. Regardez tous ces textes-là. Il est meilleur pour toi d'aller ramasser du charbon que de tendre ta main, de demander, donne-moi, 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 donne-moi. Va ramasser du charbon et vends ce charbon, c'est meilleur pour toi. وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. Dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ce qui vient à toi de ces biens, ce qui vient à toi de cet argent, sans que tu n'en sois demandeur, ni pris par la convoitise, prends-le. Et ce qui ne vient pas à toi, ne rends pas ton âme prise par la convoitise. Si cela vient à toi, on t'offre, on te donne, sans que tu ne le demandes, et sans que tu ne sois touché par la convoitise, prends. C'est une subsistance qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en cela, tu ne t'es pas rabaissé, tu n'as rien demandé, tu n'as rien recherché. Mais si tu n'es pas dans ce cas-là, alors ne fais pas travailler ton âme jusqu'à ce qu'elle devienne dépendante de cela, et alors les sens de la servitude se développent en elle. Al-Sheikh Salah Al-Fawzan nous dit: هذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لطلب الرزق والاحتراف. إذا كان الإنسان يقدر على الاحتراف وطلب الرزق. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous oriente vers le fait de rechercher la subsistance et de rechercher un métier lorsque la personne en est capable. فلا يسأل الناس ولو كان محتاجا لأنه غني بالقوة. Il ne demande pas ce genre de personne ne demande pas à autrui, même s'il est dans le besoin. Pourquoi? parce qu'il est riche de par sa force d'âme. De par sa force d'âme, son cœur n'est attaché qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, il ne demande pas à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend son câble et il va travailler avec. Et il va couper dans les champs. Il va ramasser sa subsistance au sol. Il va ramasser le charbon pour le vendre. Et ainsi, il se passe de demander, même si il est dans une situation qui n'est pas des plus faciles, qui peut-être fait qu'il est dans le besoin, mais il ne veut pas se rabaisser devant autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne veut pas se rabaisser devant une créature. Plutôt, il demande, il cherche la subsistance chez Allah, subhanahu wa ta'ala. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith là, a détesté que la personne prenne après avoir demandé verbalement ou avoir eu la convoitise dans le cœur. Encore une fois, pour protéger le cœur de la servitude pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car dans les passages précédents, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah nous a expliqué que dès lors que le cœur est attaché, dès lors que le cœur demande à une créature, il en devient l'esclave. Alors pour protéger cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé cette porte par ses récits très nombreux et authentiques. Wa qala fil hadith as-sahih, man yastaghni yughnihi Allah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: quiconque s'efforce de se passer d'autrui, Allah le fera se passer d'autrui. Celui qui éduque son âme à ne pas avoir besoin de quelqu'un, Allah tabaraka wa ta'ala va enrichir cette âme. Et cette personne-là ne sentira plus le besoin de quelqu'un. Et alors, elle goûtera al-ubudiyya lillah, la servitude pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle goûtera, comme on va le développer dans les passages à venir incha'Allah, à al-hurriyatu tamma al-haqiqiyya, à la véritable liberté qui est celle du cœur. Al-Sheikh al-Fawzan nous dit: فَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ فَمَنْ يَسْتَغْنِ عَنِ النَّاسِ يُغْنِهِ اللَّهِ. La rétribution donnée par Allah est proportionnelle à l'action faite par le serviteur. Dès lors que le serviteur a tout fait pour se passer d'autrui, Allah l'a rétribué en lui mettant le cœur, dans le cœur le sentiment de n'avoir besoin de personne. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ. Et quiconque se retient, c'est-à-dire de réclamer à quelqu'un, يُعِفَهُ اللَّهِ. Allah le passe de demander à autrui. Et quiconque s'efforce de patienter, Allah lui accorde la patience. Il nous dit ensuite: et aucun n'a reçu un don meilleur et plus large que la patience. C'est ça le remède. C'est la patience face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la patience face à la difficulté. Ça, c'est le meilleur don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui est patient, il ne va pas désobéir à Allah. Il ne va pas attacher son cœur à autre qu'Allah. Pourquoi il arrive qu'une créature attache son cœur à autre qu'Allah pour en devenir serviteur, pour en dépendre? Parce que cette créature ne patiente pas devant la part qu'Allah lui a donnée de subsistance, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui s'efforce de patienter pour Allah, Allah lui accorde la patience et il fera en sorte qu'il n'aura besoin de personne. Il se sentira libre. Même s'il faut aller ramasser du charbon, il se contentera de cela. Et ça, c'est une force d'âme. C'est une force d'âme qui te libère de toute créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit: وأوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint à ses compagnons les plus proches de ne rien demander à personne. Et vous devez savoir combien les compagnons étaient pauvres. Certes, il y avait quelques compagnons qui étaient riches, mais ils avaient l'argent dans la main et pas dans le cœur. C'est pour cette raison qu'ils n'avaient aucune gêne ni hésitation à le donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y avait énormément de compagnons qui étaient pauvres, au point ils ne trouvaient même pas de quoi manger pendant des jours, de nombreux jours. Les plus proches de ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a donné cette éducation de ne rien demander à personne. De ne pas demander ni des biens, ni de l'argent, ni autre que de l'argent. Pas même, écoutez, de rendre un service. Subhanallah. Écoutez ce que dit, ce qui est rapporté chez l'imam Ahmad rahimahullah. Anna أبا بكر كان يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. أبو بكر كالله لغري lorsqu'il était sur le dos de la monture et que la reine de la monture tombait ou le fouet, le servant à faire avancer la monture, tombait de sa main, il ne demandait à personne, est-ce que tu peux me le ramasser? Je suis sur le dos de la monture, je dois faire l'effort de descendre, toi tu es au sol, il est juste devant toi, peux-tu faire ce geste? Il ne demandait pas. Il arrêtait sa monture, il descendait, il ramassait lui-même et il continuait. Bon, réfléchissez un peu sur cette situation de laquelle on est très loin. Abu Bakr radiallahu anhu et les compagnons qui agissaient ainsi, si pour une ficelle qui est tombée ou un outil qui est tombé, ils ne demandent pas à quelqu'un « Peux-tu me le ramasser ?» N'est-ce pas qu'ils se sont protégés de la servitude pour un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala ? Car s'ils ne demandent pas une ficelle, à plus forte raison, ils ne vont pas demander la subsistance. Ils ne vont pas demander des choses qui vont amener dans leur cœur les ma'ani de al-'ubudiyya, l'essence de la servitude. Voici l'état des compagnons radiyallahu anhum. Wa fi sahih Muslim wa ghayrihi an Auf ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bay'ahu fi ta'ifatin wa asarra ilayhim kalimatan khafiyya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu des compagnons lui ayant prêté allégeance et il leur a dit une parole discrète. Quelle est cette parole? Allah tas'alu an-nas shay'a, ne demandez rien aux gens. Fa kana ba'du ulaika an-nafari yasqutu as-sawt min yadi ahadihim fa la yaqulu li ahadin nawilni iyyah. Il arrivait alors à l'un d'entre ces gens que tombe de sa main le fouet, l'outil qu'il porte, sans qu'il ne dise à quiconque, peux-tu me le ramasser, en appliquant l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Voici de nombreux textes nous montrant la demande à Allah uniquement et le fait de se passer de tout autre qu'Allah, sauf dans le cas du besoin, de la nécessité, les cas qui ont été définis par le hadith que nous avons lu et expliqué. Et il faut demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons dit. Et subhanallah, la différence, lorsque tu demandes à Allah, plus tu demandes à Allah, plus tu plais à Allah. Plus il est susceptible que tu sois exaucé. Plus tu te rapproches de lui. Lorsque tu demandes à la créature, plus tu lui demandes, plus elle se met en colère. N'est-ce pas? Même les créatures les plus proches, ton épouse, tes enfants, il te demande une fois, deux fois, trois fois, dix fois, tu ne patientes plus. Que dire alors de quelqu'un avec qui tu n'as pas de lien, qui arrive et qui te demande une fois, trois fois, dix fois, vingt fois, tous les jours? Ça va être pour toi insupportable. Allah tabaraka wa ta'ala veut de nous qu'on lui demande sans jamais s'arrêter. Et qu'on lui demande toujours plus et encore plus. Et même s'il nous donne, cela ne diminue en rien de son royaume. Subhanahu wa ta'ala. Pour cela, le poète a dit, dans ces vers cités par le Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, « La tas'alanna bunayya adama hajatan, wasalilladhi abwabuhu la tuhajjabu. Allahu yardabu in tarakta su'alahu, wa bunayyu adama hina yus'alu yardabu. » Le poète nous dit, ne demande jamais au fils d'Adam un quelconque besoin. Demande plutôt à celui dont les portes ne sont jamais voilées. Allah se met en colère si tu abandonnes sa sollicitation, sa demande. Alors que le fils d'Adam, lui, se met en colère quand tu lui demandes. Le fils d'Adam, il se met en colère quand tu lui demandes. Allah Ustad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, lorsqu'il était en bas âge, dans ce hadith très connu, « Ida sa'alta, fas'alillah. Wa ida sta'anta, fas'ta'im billah. » Quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu recherches de l'aide, recherche celle d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'imam ibn Taymiyyah rahimahullah dit, وقد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع. Beaucoup de textes sont relatés dans l'interdiction de demander à la créature et l'obligation de demander au créateur. Comme la parole d'Allah Azza wa Jal, كقوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فَرْغَبْ. Ces versets-là, qui sont peut-être connus, récités par bon nombre de gens qui cherchent leur subsistance chez autre qu'Allah. À quoi sert le Coran alors? Dans ces quelques versets, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en premier lieu bien sûr, mais aussi après lui, aux membres de sa communauté. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne dans ces versets-là et nous ordonne de s'adonner à l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala après avoir vaqué à nos occupations, les occupations mondaines qui sont les nécessités de la vie, la recherche de la subsistance, le commerce, le travail, les échanges avec autrui, etc. Il faut toujours accorder un temps à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces occupations quotidiennes ne doivent bien sûr pas primer sur l'adoration d'Allah. Les occupations quotidiennes ne passent pas avant la prière, ne passent pas avant les actes légiférés et obligatoires prescrits par Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'on voit dans ce verset « Wa ila rabbika farghab » et dirige-toi vers ton Seigneur. On voit dans ce verset que فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَّبْ. Lorsque tu as le temps libre, adonne-toi à l'adoration d'Allah. Qu'est-ce que nous enseigne le Cheikh Saleh Al-Fawzan? Il nous dit, c'est-à-dire, fatigue-toi dans l'adoration d'Allah. Fournis des efforts pour te rapprocher d'Allah et occupe ton temps libre. Et cela est la réponse à tous ces gens-là qui disent « On va casser le temps, on va tuer le temps. » Wa alaykoum salam. Ces gens-là disent « J'ai du temps libre. » Ils disent « J'ai du temps libre. » Alors, je vais le tuer, je vais le casser, le couper. Je vais « Wal'iyadu billah. » Et très souvent, quand est-ce qu'on entend ces phrases-là? Ramadan, pendant les jours de Ramadan. Pourquoi est-ce qu'il a du temps libre? Parce qu'il ne mange pas. Parce qu'il ne remplit pas son ventre. Alors il dit, j'ai du temps libre à tuer, à casser. Qu'est-ce qu'il fait? Il va circuler et se promener dans les rues, dans les marchés, dans les lieux de commerce, dans les distractions. Il va peut-être même occuper son temps par des péchés. Allah Azza wa Jalla a dit, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Lorsque tu as ton temps libre, adonne-toi à l'adoration d'Allah. Fatigue-toi dans l'adoration d'Allah. Le musulman n'a pas de temps libre. Il n'existe pas le temps libre dans le cheminement du croyant. Une minute peut te faire entrer au paradis, une minute peut te faire entrer en enfer. 20 secondes peuvent te faire entrer au paradis. 20 secondes peuvent te faire entrer en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-janna. Celui dont les dernières paroles seront la ilaha illallah entrera au paradis. Dire la ilaha illallah, bien sûr, tout en comprenant son sens et en mettant en pratique toutes ses implications. Mais dire cette parole-là, combien de temps cela prend? La ilaha illallah, une seconde? Deux secondes? Ces deux secondes-là, si tu les occupes par cette parole-là avant de mourir, elles te font entrer au paradis. Et toi, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Peut-être que tu dis la ilaha illallah, puis tu vas te lever et subitement, il va t'arriver ce qu'Allah a voulu qu'il t'arrive. Alors tu auras fait de ce temps-là, ces deux secondes-là, la ilaha illallah qui te fait entrer au paradis. Le musulman n'a pas de temps libre. J'ai du temps à casser, j'ai du temps à tuer. Ça, c'est l'insouciant. C'est celui au cœur malade qui dit cela. Allah Azza wa Jalla lui a dit, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Lorsque le temps se libère, tu te détaches de tes occupations quotidiennes, adonne-toi à l'adoration d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Et vers ton Seigneur, dirige-toi. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise وَإِلَى رَبِّكَ. Et vers ton Seigneur. Et il a placé le verbe après. Il ne le fait que pour montrer l'exclusivité. C'est-à-dire, dirige-toi uniquement, exclusivement, vers ton Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans toutes tes affaires. Wa qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam al-ibn Abbas, إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Le hadith que l'on vient de voir aussi, quand tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu cherches de l'aide, recherche l'aide d'Allah, on l'a vu expliquer. وَمِنْهُ قَوْلُ الْخَلِيلِ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ. Entre dans ce registre aussi, la parole d'Ibrahim alayhi salam, qui a dit en s'adressant à son peuple, recherchez auprès de lui la subsistance, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يَقُلْ فَابْتَغُوا الرِّزْقَ عِنْدَ اللَّهِ. Il n'a pas dit, recherchez votre subsistance auprès d'Allah. Dans la formation de la phrase, dans la traduction rapprochée, qu'est-ce qui a été dit? Recherchez auprès d'Allah votre subsistance. Ici, dans la forme de la phrase, on a fait passer en avant ce qui, à la base, devait être à l'arrière. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « Recherchez auprès d'Allah votre subsistance », à la base, on dirait plutôt « Recherchez votre subsistance auprès d'Allah ». Le fait d'avoir dit « Auprès d'Allah avant votre subsistance » indique l'exclusivité également. C'est-à-dire, ne cherchez votre subsistance que chez Allah, exclusivement. Et chez personne d'autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Car autre que lui ne la possède pas pour vous, ne peut pas vous l'accorder. لأن تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر. كأنه قال إبراهيم اجلس. اجلس. كأنه قال لا تبتغوا الرزق إلا عند الله وقد قال تعالى واسألوا الله من فضله. لما ابن تيمية رحمه الله تعالى نجي que cette forme de phrase indique l'exclusivité. Comme je viens de vous l'expliquer. C'est comme s'il avait dit, ne cherchez votre subsistance que chez lui et personne d'autre. Et Allah Azza wa Jalla a dit, وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. Recherchez auprès d'Allah votre grâce. Demandez à Allah de sa grâce, subhanahu wa ta'ala. وَالْإِنسَانُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ حُصُولِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الرِّزْقِ وَنَحْوِهِ وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُ. L'homme a un besoin nécessaire. Il a un besoin nécessaire de subsistance, d'avoir ce dont il a besoin et de repousser ce qu'il redoute. Allah tabaraka wa ta'ala nous oriente dans cela, de se diriger vers Allah. L'auteur rahimahullah dit وَكِلَ الْأَمْرَيْنِ شُرِعَ لَهُ أَنْ يَكُونَ دُعَاؤُهُ لِلَّهِ فَلَهُ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ وَإِلَيْهِ يَشْتَكِي. Dans ces deux choses-là, repousser ce que l'on redoute et attirer vers nous ce que l'on veut obtenir, nous avons l'ordre de nous diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala, écoutez bien, et de se plaindre à lui. Là, il va entrer dans un autre domaine, qui est celui de se plaindre à Allah, et pas de se plaindre à la créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est le cas de beaucoup de gens qui ne se plaignent pas à Allah, mais qui se plaignent à la créature d'Allah. Ils se plaignent à des créatures similaires à eux-mêmes, sujets aux besoins comme eux, pauvres comme eux. Qu'est-ce qu'elles vont leur donner? Rien. Dans la demande, on se dirige à Allah. Dans la plainte, l'on se plaint à Allah, subhanahu wa ta'ala, uniquement. كما قال يعقوب عليه السلام. Qu'est-ce que Yaqub a dit? Qui est Yaqub? Yaqub est le fils de Ishaq, n'est-ce pas? Il est le fils de Ishaq. Ishaq est le fils de Ibrahim. Yaqub lui-même a eu un enfant prophète qui est Amakultu la Kajlis, qui est Yusuf alayhi salam. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Yaqub alayhi salam a perdu son fils? Vous connaissez un peu l'histoire. Il a perdu son fils, Yusuf, qui était tant aimé auprès de lui. Il a été touché par une très forte tristesse. Mais qu'est-ce qu'il a dit? قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. Il a dit, je ne plains ma tristesse et mon désarroi qu'à Allah seul. Je ne me plains pas à vous. Je suis profondément triste et cette tristesse profonde qui habite mon cœur au moment où je vous parle, je m'en plains à Allah, subhanahu wa ta'ala, et pas à vous. Car vous autres, vous êtes des créatures, vous ne pourrez rien pour moi. À qui est-ce qu'il parle? À ses enfants. Ses enfants qui sont ceux qui ont pris Youssouf, alayhi salam, et qui l'ont abandonné dans le puits. Youssouf a été après retrouvé. Quand Yaqub, alayhi salam, ne s'est plaint qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala, que s'est-il passé? Il s'est passé qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé une issue favorable. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah rahimahullah continue et nous dit: Wallahu ta'ala dhakara fil Qur'an al-hajr al-jamil was-safh al-jamil was-sabr al-jamil. وقد قيل إن الهجر الجميل هو هجر بلا أذى والصفح الجميل صفح بلا معاتبة والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق ولهذا قرئ على أحمد بن حنبل في مرضه أن طاووسا كان يكره أنين المريض ويقول إنه شكوى فما أن أحمد حتى مات. Dans le Coran, nous retrouvons la mention de ce que l'on appelle « al-hajrul jamil ». comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wahjurhum hajran jamila. Le fait de s'éloigner, de délaisser. Allah Azza wa Jal a cité le fait de délaisser des créatures à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant des polythéistes, de les délaisser, de s'en écarter, de s'éloigner d'eux, et de faire manifester un beau délaissement, de les abandonner de la meilleure manière. Tout comme Allah Azza wa Jal a cité As-Safh al-Jamil dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Fasfah as-Safh al-Jamil. Je ne sais pas comment le traduire ici, en tout cas, il s'agit de passer outre des nuisances d'autrui, de ne pas leur porter de considération, ni d'y prêter attention. Troisième chose, as-sabrul jamil, la belle patience. Donc à chaque fois, il s'agit de la notion de se détacher d'autre qu'Allah, de s'attacher à Allah, Azza wa Jal. Dans la patience, as-sabrul jamil, il nous dit, c'est une patience sans se plaindre à la créature. Tu es éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala par une quelconque difficulté. Tu fais preuve de patience. Tu ne te plains pas à la créature. Tu ne vas pas pleurer à la créature. Tu pleures à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, l'on retire deux choses. Premièrement, avec le verset où Ya'qub alayhi salam nous enseigne qu'il se plaint à Allah. Se plaindre à Allah Azza wa Jal est quelque chose de très bon. Car Ya'qub alayhi salam lui-même est celui qui a dit dans son épreuve et dans son histoire fa sabrun jamil. Pour celui qui lira Sourate Yusuf le verra. Quand il a vu toutes ces difficultés qui l'ont touché, qu'est-ce qu'il a dit lui-même? Fa sabrun jamil. Belle patience. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne plains ma tristesse et mon désarroi qu'à Allah. Il a appliqué la belle patience. On comprend donc que se plaindre à Allah n'est pas une forme d'impatience. Comprenez? Se plaindre à Allah, c'est la reconnaissance que c'est Allah qui a décrété, que c'est Allah Azza wa Jal qui décide. Et cela amène à attacher ton cœur à Allah Azza wa Jal. La deuxième chose, c'est que lorsque la personne qui est touchée d'une maladie, par exemple, se rend chez le médecin qui va l'ausculter pour déterminer sa maladie et donc éventuellement son remède licite, ce n'est pas ici une plainte à la créature. Lorsque tu vas voir la créature et que tu lui dis « j'ai mal à tel endroit depuis tant de temps, après avoir mangé tel aliment, c'est très douloureux, ça me fait souffrir » pour qu'il détermine ta maladie et t'aide à t'en soigner. Ce n'est pas une plainte blâmée ici, ce n'est pas une plainte ça. Ainsi, on se plaint qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Taous, un des imams des salafs, il a été rapporté de lui qu'il a dit « Je déteste le son, en arabe on appelle cela l'anin. Le son, c'est le son qui sort de la personne lorsqu'elle souffre d'une douleur. Elle souffre d'une douleur et qu'elle est alitée. Elle est allongée au lit. Il y a une pleur un peu particulière qui sort un son de la bouche. Eh bien, ce son-là, taous, mais on parle ici des imams du tawhid, ikhwani, chers frères. C'est pour ça qu'ils sont arrivés à ce degré-là. Taous disait, je déteste ce son-là. Parce que pour moi, c'est une plainte. C'est comme si je me plains de la douleur qu'Allah m'a décrétée. Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, lorsqu'il souffrait avant de mourir, on lui a rapporté que Taous a dit cette parole, il n'a plus jamais fait sortir ce son jusqu'à sa mort. Rahimahullah, et Allah sait qu'il a souffert. Rahimahullah ta'ala. Il ne disait plus, vous savez, quand on a mal ce son-là, il ne le faisait plus sortir. Subhanallah. Regardez le niveau de reconnaissance de leur servitude à Allah. qu'Allah a tout décrété, je me soumets complètement, totalement, je suis complètement satisfait de ce qu'Allah a décrété. Au point où je ne fais pas sortir le son lorsque je suis touché d'une douleur, même si je souffre. Ces gens-là sont les imams de la sunna. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à Goussainville, on est en train de dire Ahmed et Taous, alors qu'ils ont vécu en Irak et à tel endroit, il y a tant de centaines d'années. Ce n'est pas pour rien qu'Allah a élevé leur nom. Ils ont élevé dans leur cœur la servitude pour Allah. Regardez, nous sommes là aujourd'hui à parler d'eux et à dire « Rahimahumullah ». L'imam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite « وَأَمَّا الشَّكْوَى إِلَى الْخَالِقِ فَلَا تُنَافِي الصَّبْرَ الْجَمِيلِ فَإِنَّ يَعْقُوب قال فصبر جميل وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وكان عمر بن الخطاب يقرأ في الفجر سورة يونس ويوسف والنحل فمر بهذه الآية في قراءته فبكى حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف سبحان الله. Il nous dit, se plaindre au Créateur ne contredit en rien la belle patience citée dans le Coran. Ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Yaqub alayhi salam a dit, belle patience, c'est-à-dire je veux faire preuve d'une belle patience. Et il a aussi dit, je me plains à Allah. Donc cela ne contredit pas le fait de patienter, se plaindre à Allah. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, avait pour habitude de réciter à la sourate Al-Fajr, la sourate Yunus, sourate Yusuf et sourate Al-Nahl. Et aujourd'hui, lorsque tu récites une page et demie, les gens souffrent derrière toi. Ma'al Asaf. Pourquoi, mes frères? Al-Ubudiyya. C'est parce que la part de servitude de la personne qui derrière l'imam sent le temps très long, ses jambes lourdes et faibles dans le cœur. C'est pour ça que cette même personne est capable de rester 2 heures debout pour discuter de choses futiles tout de suite après cette prière à la porte de la mosquée. Alors qu'elle trouvait la prière longue dans la mosquée, la position debout était contraignante. Dès qu'elle quitte cette prière, elle se tient 2 heures debout dans une discussion futile. S'il n'y a pas de péché dans sa discussion, en plus de cela. Pourquoi? Al-ubudiyya fil qalb. À cause de la part de servitude faible de cette personne dans le cœur. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu avait pour habitude de réciter surat Yusuf. Et quand il récitait cette surah, et arrivait au passage où Allah azza wa jalla nous dit que Yaqub alayhi salam a dit إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. Je ne plains ma tristesse et mon désarroi qu'à Allah. Il pleurait. Il tombait. Il fondait en larmes. Radiallahu anhu. Au point où ses pleurs étaient entendus dans le dernier rang. Dans le dernier rang, on l'entendait pleurer. Tellement ce verset avait de l'impact sur son cœur. Radiallahu ta'ala anhu. On ne se plaint donc qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min du'a'i Moussa. Wa min du'a'i Moussa. Allahumma lakal hamdu. Wa ilayka al-mushtaka. Wa anta al-musta'an. Wa bika al-mustaghath. Wa alayka al-tuklan. Wa la hawla. Wa la quwwata illa bik. Quant à l'authenticité de cette invocation attribuée au prophète Moussa alayhi salam, Allah en est plus savant. Allahu a'lam. Par contre, le sens de cette invocation est correct, comme a dit le Cheikh Abdelrazak al-Badr. Dans cette invocation, qu'est-ce que l'on retrouve? Allahumma lakal hamd. Ô Allah, toutes les louanges te reviennent de droit. Wa ilayka al-mushtaka. Et c'est à toi que l'on se plaint. Wa anta al-musta'an, tu es celui dont on implore l'aide. Wa bika al-mustaghath, et le secours. Wa alayka tuklan, c'est sur toi seul que l'on à toi seul que l'on s'en remet. Voilà, hawla wala quwwata illa bik. Et il n'y a de changement d'état à un autre, ni de puissance pour y arriver qu'en toi seul. Subhanahu wa ta'ala. S'arrête ici pour aujourd'hui, inshaAllah. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.